Radio Spirale. En avril 2011, l'Académie des lettres du Québec recevait des invités de partout lors de la 39e rencontre québécoise internationale des écrivains qui avait pour thème Eros et ses fictions. Nous entendrons ici la conférence publique de Suzanne Jacob qui ouvrait l'événement. La conférence avait lieu à la Maison des écrivains de Montréal.
Alors bonsoir, je me présente, mon nom est Louise Dupré, je suis directrice de la Rencontre québécoise internationale des écrivains et je vais vous souhaiter la bienvenue à vous tous, à vous toutes, chers écrivains, chères écrivaines et chers amis de la Rencontre. La Rencontre québécoise internationale des écrivains, organisée sous l'égide de l'Académie des lettres du Québec, en est cette année à sa 39e édition. Qui aurait cru que la première rencontre des poètes canadiens, suscitée en 1957 par Jean-Guy Pilon et Gaston Miron, dans un Québec qui commençait alors à prendre conscience de lui-même, aurait des résonances aujourd'hui encore? Fondée officiellement en 1971 par Monsieur Jean-Guy Pilon, la Rencontre québécoise internationale des écrivains est un événement unique en son genre au Québec et au Canada. Elle a accueilli jusqu'à maintenant plus de 500 écrivains de 50 pays différents qui ont accepté de réfléchir au fil des ans avec des écrivains québécois sur des thèmes aussi diversifiés que l'aveu, l'enfance, la blessure ou le futur. Cette année, nous avons choisi un thème que nous voulions aborder depuis longtemps, Eros et ses fictions. Car écrire l'érotisme est subversif et l'écrivain qui en a fait ses fictions a longtemps été considéré comme dangereux. Il n'en est plus de même aujourd'hui. À cette époque de grande liberté où l'érotisme est surexploité, notamment dans les médias, la publicité et le cinéma. Dès lors, comment aborder l'érotisme dans la fiction? Comment en renouveler l'approche? Faire une réflexion collective sur des sujets importants pour des écrivains, voilà qui a toujours été l'objectif de la rencontre. Si la rencontre a survécu toutes ces années, c'est grâce à la ténacité de ceux et celles qui ont donné généreusement de leur temps. Je pense à Jean-Guy Pilon et Jean Royer, ainsi qu'à Nicole Brossard, les directeurs de la rencontre qui m'ont précédé. Je veux les remercier chaleureusement de leur implication et de leur complicité. Le comité d'organisation actuel est formé de Nicole Brossard, Denise Desautels et Hélène Dorion, ainsi que de Naïm Catan et Pierre Neveu. Je les remercie parce que nous prenons toutes les décisions ensemble. Merci aussi à Patricia Lamy, notre attachée de presse. Comme l'an dernier, Radio Spirale mettra à votre disposition, grâce à son système de balado-diffusion, les conférences et les échanges de la rencontre. De plus, les textes des conférences seront placés sur le site Internet de l'Académie des lettres du Québec et la conférence de Suzanne Jacob et celle d'André Roy paraîtront dans les écrits. Je tiens à vous inviter à la lecture publique demain soir à 17h30 à la Maison de la culture Plateau Mont-Royal, au 465 Avenue Mont-Royal-Est, où vous pourrez entendre 11 écrivains invités à la 39e rencontre. Deux autres événements publics auront lieu. Le jeudi 28 avril à 20h, se tiendra une table ronde sur notre thème, Eros et ses fictions, dans le cadre du Festival Métropolis Bleu, Et une autre table ronde se tiendra dans le cadre du Festival de la poésie de Montréal à la fin de mai. Je tiens à rappeler que la rencontre est organisée principalement grâce à des subventions du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal, de même qu'avec le soutien du Consulat général du Mexique, du Consulat général de Suisse et de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, de l'Institut culturel italien de Montréal, du ministère de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche du Luxembourg, ainsi que de l'Institut Ramon Llull de Barcelone. L'UNEC, Radio Spirale, CIBL, la librairie Le Port de Tête, à qui on doit la table de vente de ce soir d'ailleurs, la Maison de la culture Plateau-Mont-Royal, le Festival Métropolis Bleu et le Festival de la poésie de Montréal sont partenaires de l'événement. Je remercie tous nos subventionnaires et nos partenaires de leur soutien, ainsi que Louis Caron, Yvan Lamotte et Jean-Claude Corbeil, qui sont présidents, vice-présidents et secrétaires généraux de l'Académie des lettres du Québec. Enfin, merci aux maisons d'édition qui ont accepté de commanditer la rencontre, les éditions Urtubise HMH, les éditions du Norrois et les éditions Trois Pistoles. Merci aussi à l'Union des écrivaines et écrivains du Québec qui nous accueille ce soir et à sa présidente, Mme Danielle Simpson. En collaboration avec la rencontre, l'UNEC vous offrira, après la conférence, un verre de l'amitié, de sorte que vous aurez l'occasion de rencontrer les écrivains invités que je désire vous présenter. Alors, je demanderai aux écrivains de se lever quand ils seront nommés. Alors, il y en a peut-être qui sont absents, qui n'ont pas pu se rendre ce soir, mais la majorité sont arrivés. Alors, du Québec, Marie-Célie Agnan. Marie-Célie est-elle là? Non, pas encore. Denise Brassard. Alors, Denise. Michel-Marc Bouchard, qui est là. Daniel Fournier, qui n'est pas arrivé encore. Brigitte N15. Hugh Hazelton, qui est au fond. Alors, Suzanne Jacob, évidemment, qui va faire la conférence inaugurale. Monique Larue. Nadine El-Taïf et Pierre Sanson. D'Ontario, André Lasselle. Est-ce qu'elle est arrivée? Oui, André est là. De l'étranger, Sarah Cohen. Où est Sarah? Elle est là. Elle est d'Argentine. Marie-Étienne, qui vient juste d'arriver et qui se repose, qui va venir plus tard. Alexandra Fixmer du Luxembourg. Titi Folieri, qui vient d'Italie. Biel Mesquida y Amengual, de Catalogne. Pedro Serrano du Mexique, je crois qu'il n'est pas arrivé encore. Et Jean-Bernard Vuillem de Suisse. Nous sommes particulièrement heureux que vous ayez accepté notre invitation. Et avant de céder la parole à mon collègue Pierre Neveu, je veux vous souhaiter une très bonne soirée. Merci.
Alors, bonsoir. En préambule, je dirais, avec beaucoup de modestie, Louise a pris la peine de dire que toutes les décisions étaient prises en commun, c'est vrai. Cela dit, elle est la cheville ouvrière, elle joue un rôle extrêmement important. Et je ne suis pas sûr que ce soit encore assez haut. Ah, voilà. C'est bien, là? Vous m'entendez bien? Bon, OK. Alors, je veux simplement dire... tout le travail qu'elle met dans cette rencontre et avec tellement d'amabilité et de compétence, je pense qu'il faut... Alors, vous connaissez le cliché de bien des présentations où on dit d'abord que la personne qu'on doit présenter n'a pas besoin de présentation, et sans doute le cas pour plusieurs d'entre nous, en tout cas pour Suzanne Jacob. Mais d'une part, il ne faut pas oublier nos amis étrangers qui la connaissent sans doute moins. Et je dirais aussi que les présentations, ma foi, c'est un rituel auquel je crois, qui est utile, même si on connaît la personne. Alors, je rappelle brièvement quelques faits, qu'elle est née à Amos, cette ville dominée par une cathédrale byzantine en Abitibi. Il faut y aller, ça vaut le détour. Avant d'entreprendre sa carrière littéraire, donc plus à la fin des années 70, elle a pratiqué plusieurs activités, le théâtre notamment, la musique. Je sais que dans un de ses livres, elle dit qu'elle se prépare à jouer, à répéter les fugues de Bach. Donc, si vous connaissez peut-être ses essais suffisamment pour savoir que la dimension musicale de l'écriture est quand même très importante, l'écoute, l'harmonique, bon, etc. Elle a fait, ça c'est peut-être moins connu, de la pédagogie. Elle a même enseigné le français langue seconde dans des entreprises en 1966-1974. Là, ça, je crois que c'est plus connu. Elle avait ensuite entrepris une carrière de chanteur, auteur, compositeur, interprète dans les années 70, où elle a connu, effectivement, un très bon succès. Mais ensuite, elle s'est lancée dans une carrière littéraire et elle a eu une reconnaissance, on peut dire, instantanée, immédiate, avec Fleur Cocon en 1978, un roman qui a été très remarqué. Puis ensuite, Laura Laure, en 1984, qui lui a valu le prix du gouverneur général et le prix Paris-Québec. Et ensuite, alors là, au total, environ 25 titres à ce jour. La passion selon Galatée, Maud, Les aventures de Pomme Doulée, L'obéissance, peut-être un de ses romans les plus remarqués, en 1991. En même temps, elle a publié des essais. Le plus connu, sans doute, et remarquable, c'est La bulle d'encre, qui lui a valu une réflexion sur l'écriture et la lecture, qui lui a valu le prix de la revue Études françaises. En parallèle, donc, à la même époque, fin des années 90, elle publie des recueils de poèmes, Les écrits de l'eau, et ensuite La part de feu, qui, à nouveau, publié chez Boréal en 97, qui lui vaut à nouveau le prix du gouverneur général. Puis, dans les années 2000, bon, d'autres romans, dont plusieurs sont très connus, Rouge, mère et fils en 2001, Wells, Fugueuse en 2005, et les plus récents, Un dé en bois de chêne, qui est un recueil de nouvelles chez Boréal en 2010, et un recueil de poèmes qui vient tout juste de paraître, qui s'appelle Amour, que veux-tu faire? Je pense que la question est déjà un petit peu alignée sur notre thème. Je mentionne aussi qu'elle est entrée à l'Académie des lettres du Québec en 2001, et qu'elle a obtenu le prix Athanase David pour l'ensemble de son œuvre, prix du Québec, en 2008. Alors, un petit mot pour peut-être se demander pourquoi avons-nous demandé à Suzanne Jacob d'ouvrir cette 39e rencontre sur le thème Eros et ses fictions. C'est peut-être pas si évident, dans la mesure où on peut pas dire que l'érotisme soit si explicite chez elle. C'est pas, il y a très peu de grandes scènes torrides dans son œuvre. Je dirais peut-être d'abord parce que son écriture, comme d'ailleurs sa réflexion sur l'écriture et la lecture, si souvent concernée par la loi, par l'interdit, est traversée aussi par un goût constant du risque, d'une folie même. Parce que la littérature, pour Suzanne Jacob, nous mène au bord d'un abîme, qui est sans doute celui du non-sens, d'abord, tout en nous évitant d'y sombrer, ce qui est très important, et que ce vertige-là, sûrement, ne peut pas être étranger aux emportements et aux déraisons de l'éros. Une autre raison, c'est peut-être qu'elle a bien décrit, notamment dans La bulle d'encre, que je mentionnais tout à l'heure, que le fait que lire et écrire sont une affaire de séduction, qu'il y a une voix, un rythme, une musique qui concerne au plus profond le désir dans cette relation-là au livre ou à l'écriture. Mais j'ajouterais aussi que son écriture entretient un rapport souvent troublant au corps, qui n'est pas celui de la représentation érotique classique, il faut dire souvent un peu convenu, mais qui fonctionne plutôt comme une série d'indices, d'appels, qui sont comme des fragments d'une totalité absente, mais infiniment désirable. Et pour terminer cette présentation, je voudrais juste lire un paragraphe, c'est un peu tronqué, là je m'en suis, de son dernier livre. Je pense que cette scène-là est tout à fait emblématique de cette représentation fragmentée, mais très évocatoire, finalement, de l'éros. Alors, c'est un journaliste qui vient rencontrer dans un café, le bistrot, la brioche lyonnaise, tout près d'ici, une chanteuse qui s'appelle Galatée, c'est un nom qu'on connaît déjà dans son œuvre. Alors, il arrive au café, ou au bistrot. 11h du matin, il n'y avait qu'elle qui attendait tranquillement dans les rayons du soleil qui tanguaient entre les tames de la brioche lyonnaise. Elle a tendu la main. Gala, nos mains étaient à la même température. La serveuse nous a interrompus. Galatée voulait de l'eau. Moi, une bière, n'importe laquelle. Galatée a regardé les briques du mur contre lequel s'appuyait son épaule droite. Et elle a dit doucement, sans peser les mots, « Je n'ai pas de raison, je n'ai aucune raison. Je n'ai pas de raison. » J'ai attendu. Galatée suivait du bout de l'index les dessins du bois sur la table. Ça va devenir une histoire d'amour, hein? Le journaliste, troublé par la absence de cette femme, lui saisit la main et elle a cette phrase « Votre voix pénètre en moi, je n'y peux rien, et la mienne pénètre en vous. Que faire ?» Alors, il me semble que cette étrange face-à-face où s'éveille le désir, je pense qu'il y est déjà tout à fait dans le thème de notre rencontre, cette constellation de gestes, de signes corporels, de petites choses, le soleil, le mur de briques, la table de bois, l'eau, la bière, les paroles remplies de silence aussi qui convoquent donc l'éros dans l'écriture et la lecture. Alors, c'est sûr qu'elle en a beaucoup à dire sur le sujet, malgré les apparences. Et qu'au terme de cette courte entrée en matière, je crois que nous sommes prêts à l'écouter. Alors, Suzanne Jacob.
Merci beaucoup, Pierre. Essayez. Alors, chers consoeurs, chers confrères, chers amis et chers amis, j'espère que vous me pardonnerez d'inaugurer un peu abruptement notre rencontre par une histoire que plusieurs d'entre vous connaissent par cœur et qui a été racontée il y a 2380 ans dans Phèdre, un petit roman de Platon. Deux amis se croisent en plein été dans la chaleur étouffante d'Athènes à l'heure du midi. Ils se reconnaissent. Phèdre, mon ami. Socrate. Les deux amis entament une conversation. Phèdre pique la curiosité de Socrate. Les deux hommes conviennent de trouver un endroit où ils pourront deviser de la question qui excite Phèdre au plus haut point, l'amour. Et plus précisément, est-il souhaitable que l'amour soit réciproque ? Ils font un bout de chemin hors les murs de la ville, vers un très haut platane que Phèdre a repéré. Lorsqu'ils l'atteignent, Socrate n'en revient pas, parera le bel endroit pour y faire une halte. Oui, ce platane étend largement ses branches et il est élevé. Ce gâtillier lui aussi est élevé, son ombre est merveilleuse, il est en pleine floraison. On a de la chance. Et comme il embaume ce lieu. Et cette source qui coule sous le platane, son eau est fraîche. Mon pied l'atteste en tout cas. Et le bon air qu'on a ici, agréable, plaisant, et ce chant mélodieux de l'été qui répond au cœur des cigales, et la chose la plus exquise de toutes, c'est l'herbe. La douceur naturelle de la pente permet, en s'y étendant, d'avoir la tête parfaitement à l'aise. Quel merveilleux guide tu es, Phèdre. L'ami Phèdre finit par se demander si Socrate ne charrie pas un peu. « Tu es bien l'être le plus déroutant du monde, tu as l'air d'un étranger qu'on guide, comme si tu n'étais pas d'ici. » Socrate s'excuse, c'est vrai qu'il ne sort jamais de la ville, il n'insistera pas. Il aurait pu, car il n'est pas certain que Phèdre a bien entendu le nom des deux arbres dans l'ombre desquels il s'installe. Le platane, c'est l'arbre de Gaïa, la terre, et aussi celui d'Aphrodite, l'amour. Le platane symbolise la régénération et il manifeste le flux de la présence divine par ses feuilles en forme de mains ouvertes. Le gâtillier, qui possède lui aussi des feuilles palmées, est un arbuste qui a une double vertu de régulateur hormonal pour les femmes et d'anaphrodisiaque pour les deux sexes. C'est l'arbre dit de chasteté. Pour protéger les lieux sacrés des plaisirs de la chair, on en couvre les sols. Princesse Zépiti se couche sur des matelas faits de gâtillier pour rester pure. mais peut-être aussi que Phèdre a tout à fait compris ce que Socrate a tenté de rappeler implicitement en exagérant l'éloge du lieu, qui serait que s'il veut parler convenablement de l'amour, il doit faire baisser le niveau d'excitation libidinale dans laquelle la matinée passée à discuter d'amour avec son chéri l'a plongée. En tout cas, Socrate nous laisse entendre à nous, une fois qu'on a repéré l'affaire du Gatilier, qu'il est inutile, si on veut y voir un peu clair, d'aborder le sujet de l'amour sans s'être prémuni d'une certaine tempérance. Un climatiseur, quoi, qui nous tiendra à l'abri de la contagion calorifique des mots, fauteurs de troubles, car le langage est le terrain de jeu par excellence d'Eros, là où il est le plus agile, mobile et mercurien, là où il ne craint pas d'être mis à l'arrêt pour délit de séduction. Il excelle à confondre s'ébattre et débattre, jusqu'à ce qu'on ne sache plus comment se débattre dans la canicule. Réfléchissant à cette histoire, je me suis mise à apercevoir que l'ironie, la méfiance, la rage, la colère, la détresse, l'indifférence, le ressentiment, le découragement, face au délabrement d'Eros, pris en étau dans les mâchoires de la marchandisation, étaient peut-être autant d'excitations libidinales qui atteignaient parfois des niveaux susceptibles de fermer toutes les pistes, d'obstruer toutes les voies du renouvellement du désir. C'est d'abord contre elles que j'ai finalement éprouvé le besoin de me prémunir avant d'entreprendre cette rencontre. Les plus anciennes écritures sont des registres comptables d'échanges de biens, denrées, bêtes, outils, matières premières, captives. J'ai reçu tant, j'ai donné tant. Et non pas j'ai tant reçu, j'ai tant donné. Deux registres. La plus ancienne écriture à laquelle on m'a fait m'appliquer était destinée à remercier mes grands-parents maternels de leurs bons vœux accompagnés de présents. Ne disposant d'aucun présent à joindre à ma lettre, je me sentais en dette envers eux. La solution que j'avais imaginée avait été d'amplifier l'affection que je ne leur portais pas, mais qui était, je n'en doute pas aujourd'hui, celle que mes parents leur portaient. Chers grands-parents bien-aimés, virgule. L'encre n'était pas encore sèche que mes parents me demandaient de reprendre ma lettre en supprimant ces mots excessifs de « bien-aimé » que j'avais attrapés, ils ne savaient où. « Chers grands-parents » suffirait largement. J'entends toujours les petits gloussements de mes aînés, déjà, eux, initiés à la mesure. Le plus curieux, c'est que la suppression des mots « bien-aimé » de ma nouvelle lettre avait provoqué une bouffée en avoir le front et les mains moites de réelle affection mêlée de honte ou de réelle honte édulcorée d'affection pour ces gens qui vivaient à Victoria sur l'île de Vancouver et que je ne connaissais pas de vue. Cette fois-là, mon grand-père avait répondu à mes remerciements modérés qu'il avait été ravi de constater que j'avais une belle main d'écriture. Nouveau registre, que voulait-il dire ? Que mes lettres étaient bien formées, mais dénuées de réelle affection ? Ou avait-il perçu, à travers le dessin de ces lettres, la honte qui avait dénoncé une affection inventée de toutes lettres à partir du vide réel créé par l'absence d'un présent ? Si j'avais pu en discuter avec mon grand-père, m'aurait-il amené à découvrir que de ne pas disposer de présent était certainement difficile pour une petite personne qui coinçait ainsi sa plume entre deux registres ? Car si je n'avais pas de présent à lui offrir, je lui avais offert le présent de ma présence, le temps d'écrire cette lettre. Et si nous avions pu en discuter avant sa disparition, m'aurait-il amené à entendre que le mot « affection » a, lui aussi, un autre registre, qui concerne la maladie, la souffrance, la douleur, et que la honte que j'avais éprouvée pouvait, tout aussi bien, être portée au compte de la trahison d'une souffrance tenue secrète. Je crois aujourd'hui que cette discussion n'a pas cessé d'avoir lieu entre mon grand-père et moi, et qu'elle ne s'interrompt que lorsque je retrouve le vide de présent, cette espèce de trou par où fuit ce que je n'ai pas à dire, et que je tente de colmater avec la glu des mots, et de croire que je le transforme par l'application de l'écriture en présent réel. Et ainsi de ce mot d'Eros. qui fuit par tous ses pores et ses pourceaux circéens. Pendant plusieurs semaines, je n'ai pas compris pourquoi j'avais accepté cette invitation du comité organisateur, transmise par Louise Dupré d'une voix ferme et douce, à dire quelque chose à partir de ce mot-là. Mon déficit de curiosité pour tout ce qui a trait à Eros, ou en tout cas à l'érotisme, ce théâtre, à l'érogène, ce zonage, à l'érotomanie, encore une embrouille, à l'érotologie, ce repère de gourou, me semblait irrattrapable. La boucle rétroactive qui me permet, comme à chacun, d'entendre à peu près ce que je me dis, m'avait au moins permis de réentendre déficit pour tout ce qui a trait à Eros, et en insistant, de bien comprendre qu'il y avait tout de même là un attrait, peut-être pour le trait d'une certaine flèche, Eros, ce mot sans vue, ce mot dont je n'avais jamais eu besoin pour grandir, pour chanter, pour jouir, pour enfanter, ce mot dont je ne retrouvais pas le moment de son entrée dans ma vie, était peut-être porteur d'un pouvoir d'attraction dont je m'étais défendue jusque-là par une fausse incuriosité. Après ces dernières années ponctuées par les pertes en rafale de plusieurs de mes proches, il me semblait que j'étais bien mieux équipée pour réfléchir sur la disparition d'Eros et, disons le mot, sur la mort, tant que j'y étais, tant que j'y restais embourbée, tant que je ne retrouvais pas mes marques, tant que ça ne me lâchait pas. Pourtant, en me remémorant les instants de l'agonie des miens qui m'avaient le plus bouleversée, ou en essayant d'éviter de me les remémorer pour me délivrer de leur présence spectrale, j'ai fini par entrevoir que les mille manœuvres et manigances des agonisants pour profiter intensément des ultimes pulsations de vie jusqu'à l'instant crucial poursuivaient le même but que l'art érotique, qui est de différer. De différer l'instant crucial sans rien perdre du désir. Je me suis mise alors à entendre l'invitation que Louise Dupré m'avait transmise si doucement, si fermement, comme une incitation à rompre avec les spectres qui me refusaient que je rétablisse des liens avec le monde, que je redevienne du monde, le temps d'entendre le chant de la flèche d'Eros traverser le ciel, comme on entend ces jours-ci, de très loin, venir le souffle scandé des oies sauvages qui renversent la tête vers le ciel. Je me suis donc rebranchée. Et je suis partie, souris en main, à la recherche d'Eros en Wikipédia, classe économique, pas de file d'attente. Pas de douanier revêche, siège toujours réservé, silence à volonté. Après un décollage turbulent, je me suis retrouvée empêtrée dans les clips Eros, les festivals Eros, les boutiques Eros, les produits 100% québécois Eros, enlisée dans les bordels de plage de la République des Dominicaines entre quatre nubédaines purlaines égarées dans les... Ah, c'était terrible, ça. Égarées dans les rues sri-lankaises où les riches pakistanais avaient atterri pour un week-end Eros, quiz des religions, blog bien-être, super bon plan massage, Eros en bourse, apprenez à chiffrer vos orgasmes sur une échelle de 1 à 10, laissez l'écriture enivrer votre âme, elle a jeté mon âme à bouffer au néant. Hippo, mais je me soigne. Tiré d'affaire par le premier mouvement Largo Attacco du Quatuor numéro 8 en do mineur de Shostakovich, 20 848 l'ont écouté, 61 aiment, 0 n'aiment pas. Ça fait le même effet que la drogue qui dupe les secrètes. Oui, une drogue qui serait l'exact contraire du Prozac, rétorque Neurotico Anonymo. Rétorquer, il y a un verbe, torquer. Ben oui, c'était en latin, mais pas sur Wiki, dans mon littré. Torquerer, tordre. D'où un argument tordu et retordu auquel on rétorque. Aime, aime pas, à remplacer vrai, faux, du test objectif. Tiens, sa foi à une fille, Cléis. Tiens, sa foi à l'auteur du titre de la nouvelle de Salinger, Dressez haut la poutre maîtresse charpentier. Et on ne m'avait rien dit? Oh, un nain chaud vitifalique au Louvre, fameux. À Rome surtout, ils en mettaient dans les jardins comme épouvantail. Le metteur en scène du Crazy Horse explique. Plus une femme se meut lentement, plus elle est érotique. J'ai bien fait de faire un peu tai chi, moi. Le comique est l'échec fondamental du sujet à rejoindre son désir. Ça, c'est peut-être Kojève ou Lacan, mais pourquoi pas Beckett ou moi, car j'y suis. Comme dans la plus grosse stalle de bleuets jamais vue, c'est gratuit, même si imminent payant, m'a dit mon frère, jamais je n'aurai assez de ma seule mangeoire pour ramasser tout ça. Osée et Ross, délice à la une, le commander à côté. Sex for the Millennium, Darol Jaffe, revendique le terme de guérilla pour qualifier son écriture. Je commande les deux en bas de la rue chez mon petit libraire. Arrêt à la SAQ, trois jeunes caissiers discutent du sacrement du mariage. Parce que ta fiancée, elle croit à Dieu. Non, elle ne croit pas à Dieu, elle croit en Dieu, explique le fiancé. On ne croit pas à l'amour quand on est en amour. Pas de problème, man. J'ouvre le Sex for the Millennium au hasard, c'est un plombier et une membre d'une Mensa dans un club de gym côte à côte sur des tapis de jogging. Tous leurs vêtements sont signés, leurs cheveux, leurs ongles, leurs touffes, leurs poutres appartiennent tous à des marques. Tous marchent pour des marques. Ils sont tous les mannequins des marques. Tous et toutes acteurs et actrices de la parodie d'Eros orchestrée par les fabricants de casquettes. Je ferme le Sex, j'ouvre Osée Eros, je ne comprends pas le mot partenaire. Exergue de la conclusion, nous n'en aurons jamais fini avec Eros. C'est de Jacques Brault. C'est clair, il faut poursuivre. Je reprends ma navigation. Je scrute le visage de l'empereur Akihito. Il ressemble au japonais du troublant Shunga vu à Liège. Les amants, intensément absorbés dans le spectacle de la rue, coïtent debout à travers leur kimono sur leur balcon. Ensuite, c'est le visage ensanglanté de nouveau-né, le premier à naître sur le site du plus récent tsunami, 20 mètres de haut, la vague à quelques kilomètres des réacteurs nucléaires récalcitrants qui passent au degré 7 du catastrophique, aussitôt remplacé par une demande urgente d'appui de pétition. C'est alicejavaz.org qui sonne l'alerte. Stop corrective rape. Stop le viol rééducatif en Afrique du Sud. Millicent Geka a été ligotée, étranglée, torturée et violée pendant 5 heures par un homme qui s'est vanté de pouvoir guérir ainsi cette femme de son lesbianisme. À Cape Town, il se produit au moins un de ces corrective tapes par jour. Et puis ensuite, maintenant, je tombe sur Gaëtan Brulotte, qui dit « L'objet trop beau est à la fois fascinant et menaçant. Beau voudrait presque dire clos. » Ça me plaît, ça. « L'éros féminin des femmes surréalistes, nous écrit Georgina Colville, avait le cul entre deux chaises. » Ça, c'est pas élégant. « Je sais, nous confie Suzanne Lillard, qu'il y a dans l'éros féminin, qui est très différent de l'éros masculin, une tendance à l'abdication, une jouissance dans la soumission. » Là, je suis fatiguée. Le réel, vous ai-je dit, insiste Lacan, c'est ce qui se retrouve toujours à la même place. Je vais essayer d'obéir. Je vais recommencer. Allez, un petit effort. Il y a un chaos. Ce n'est pas le même. Il n'est pas à sa place. Mais il y en a un. Et justement, il ne se retrouve jamais à la même place, ce qui fait croire qu'il n'y a rien là. Rien là. Rien là. Vous voulez dire rien quelque chose ? Rien toute chose, ou rien comme avant que ça commence, ou rien comme après que c'est fini. On se calme, je vais reprendre le Shostakovich, qui n'est pas du Viagra. On a tout le temps pour le chaos. J'essaie de rencontrer quelqu'un, j'attends quelqu'un, mais nous sommes ensemble. Ce n'est pas possible, je suis déjà irradiée. Je ne sais déjà plus quel masque porter contre les commotions cérébrales des joueurs de hockey et les émanations de Las Vegas. Mon regard s'effrite entre l'écran et la fenêtre, il s'agrippe à mes livres les plus aimés, et je comprends alors. Qu'ils ont été, qu'ils sont toujours mes abris nucléaires, mes seuls lieux habitables, mes liens les plus durables, les plus érotiques, les plus érotisés sans cesse, et je les imagine, happés, arrachés, sombrant dans les abysses océaniques, noyés pensifs d'un poème ivre, où vivre était livré d'emblée aux livres eux-mêmes, et où un seul livre était souvent tous mes vivres. Je sors de Wikipédia. La mangeoire débordante de milliers d'éclats, de débris et de gravats dans un état proche du chaos. Et n'est-ce pas toujours là, précisément, l'origine d'Eros ? Ai-je déjà rejoint l'origine ? L'état de la matière où Eros cherche forme, prend forme, veut une forme qui tienne tête au chaos et tienne lieu de tête à un chaos sans queue ni tête. S'il se produisait dans les heures qui viennent la catastrophe prédite par Nostradamus et par Edgar Cayce, imaginons une 8e glaciation, imaginons. Après des millénaires, les fouilles révéleront que les cultes répandus universellement vers la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle étaient rendus à trois déités primordiales. Barbie, Céline Dion et Michael Jackson. Que Barbie, la Vénus, l'ours du phallus, étaient vénérées sur tous les continents. On aura retrouvé plus d'un milliard d'exemplaires et le déchiffrage de textes auront révélé que des parapsychologues proposaient à leur adoratrice d'entrer en rapport avec l'esprit de Barbie pour la modique somme de 3 dollars. Céline Dion semblera avoir été vénérée au départ comme androgyne et plus tard comme déesse mère d'un couple de jumeaux. Michael Jackson est d'abord, diront les experts, représenté comme un enfant mâle qui, au fil du temps, se transforme en androgyne pour finir par porter ce qui apparaît, un masque mortuaire d'un troisième sexe. Certains chercheurs douteront qu'il se soit agi de la même déité, et Ross s'appellera peut-être Mattel ou Angélil ou Sony, et toutes les voix de cette divinité disparue, inaudibles désormais, formeront le chaînon manquant qui ne permettra jamais de déchiffrer le code de ce panthéon, il faudra l'inventer. Je cherche à me représenter le chaos originel. Je me reporte à la déflagration finale du film Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni en 70, en pleine révolution sexuelle. Ça s'envoie en l'air, une fois pour toutes. Dans ses plans multipliés d'un orgasme ultime avec ses explosions, convulsions, spasmes et soubresauts, l'antre tombé des cygnes, disloqué, démembré, segmenté, pulvérisé, atomisé. Tous des mots auxquels on est très habitués maintenant. Ça flotte lentement, terre et ciel confondus, indistingués. Gaïa et Uranos, ayant retrouvé l'accouplement initial, comme le racontent presque toutes les cosmogonies. Dans l'égyptienne d'Héliopolis, ce chaos s'appelle Noun. Le ciel et la terre sont coincés dans un coït sans fin, auquel Atum met fin par un effort de volonté, volonté qu'on baptisera un jour Eros. Atum, cet effort de volonté, est un lui-elle, ni mâle, ni femelle. Lui-elle, alors, se sent tout seul. Et lui-elle, n'aime pas ce sentiment de solitude. Il s'unit à son ombre. Bon, on ne sait pas où est l'ombre avec un lui-elle. Il s'unit à son ombre pour combler le vide que creuse cette solitude. De cette union onaniste, naissent le fils qu'il crache et la fille qu'il vomit. Dans la cosmogonie égyptienne de Thèbes, Amon s'auto-engendre mâle et femelle. Ni père ni mère, pas de trace d'Eros. Des milliards d'années, mais toujours cette mémoire d'un chaos, où les sexes ne sont pas plus différenciés que terre et ciel. Dans la cosmogonie orphique, c'est de l'accouplement de l'éther et du chaos que naît un œuf. C'est l'œuf cosmique. De cet œuf sort Eros. Un principe, cette fois. Le principe. Le principe qui manifeste la dualité qui permet le passage du sensible au suprasensible, du monde inférieur au monde supérieur. Ici, Eros est une voix, un Tao. La Théogonie d'Hésiode, ensuite, ce poème révélé par les muses au 8e siècle avant Jésus-Christ, raconte qu'entre le chaos indistinct, Gaïa inerte et la nuit des ténèbres, quelque chose s'est mis en branle, à branler, ou à se branler, à s'ébranler en tout cas. Et cet ébranlement engendre Eros, et c'est aussi Eros qui l'engendre. Dès qu'Eros est nommé, engendreur, euse, engendré, eux, peu importe, aussitôt la nuit, le jour, le sommeil et la mort sont créés. Par une pensée-action ou action-pensée. Pensée et action coïncident, pensée et action ne se connaissent pas comme distincts. J'imagine que chacun se souvient d'avoir atteint ce genre d'état d'indistinction dans ses propres nirvanas. La Genèse, datée du 7e siècle, remplace Eros par l'esprit d'un dieu unique. La terre est vague et vide, les ténèbres couvrent l'abîme, l'esprit du dieu unique plane sur les eaux et tout prend forme. Deux siècles plus tard, Socrate, étendu dans l'herbe à l'ombre du gâtillier, est inspiré. Je dirais donc que c'est ce désir, dépourvu de raison, qui se porte vers le plaisir que donne la beauté, et qui, par l'effet des désirs qui ont pour objet la beauté des corps, se renforce à son tour fortement. Je dirais donc que c'est ce désir-là qui, devenu penchant irrésistible et tirant son nom de sa force même, a été appelé Eros. Voilà une fameuse complication que vient d'introduire le mot « beauté » dans l'affaire Eros. Dans la Genèse, déjà, on avait introduit une bonté, et Dieu vit que cela était bon. Mais peut-être Dieu voyait-il tout simplement qu'il avait trouvé le mot juste. et maintenant nous voilà aux prises avec la beauté. Pour Platon, en tout cas, si j'ai bien lu, le sentiment que nous éprouvons de la beauté du monde a pour rôle d'éveiller l'éros dans l'âme pour que l'âme parvienne à l'union avec le monde supérieur. Éros éveillé conduit l'âme par degrés vers la contemplation du beau, B majuscule, au royaume de l'intelligible, I majuscule. La personne qui est parvenue à l'ultime degré de la contemplation devient survoyante, épopte. Je ne me refuse pas le plaisir de vous lire le passage du Phèdre, ce petit roman, dans une traduction de Luc Brisson, où Socrate détaille le choc provoqué dans l'âme par la beauté. Oublions ce que nous croyons savoir sur la pédérastie des Grecs, ça ne nous servirait à rien. À la vérité, dit Socrate, celui qui n'est pas un initié de fraîche date ou qui s'est laissé corrompre, celui-là n'est pas vif à se porter d'ici vers là-bas, c'est-à-dire vers la beauté en soi, quand dans ce monde-ci, il contemple ce à quoi est attribuée cette appellation. Aussi n'est-ce point avec vénération qu'il porte son regard dans cette direction. Au contraire, s'abandonnant au plaisir, il se met en devoir à la façon d'une bête à quatre pattes de saillir. Pas québécois, là, saillir, les bêtes, d'éjaculer, et se laissant aller à la mesure, il ne craint ni ne rougit de poursuivre un plaisir contre nature. En revanche, celui qui est un initié de fraîche date, celui qui a les yeux pleins des visions de jadis, celui-là, quand il lui arrive de voir un visage d'aspect divin, qui est une heureuse imitation de la beauté, ou la forme d'un corps, commence par frissonner car quelque chose lui est revenu de ses angoisses de jadis. Puis, il tourne son regard vers cet objet, il le vénère à l'égal d'un dieu, et s'il ne craignait de passer pour complètement fou, il offrirait au jeune garçon des sacrifices comme à la statue d'un dieu, comme à un dieu. Or, en l'apercevant, il frissonne et ce frisson, comme il est naturel, produit en lui une réaction. Il se couvre de sueur car il éprouve une chaleur inaccoutumée. En effet, lorsque par les yeux il a reçu les effluves de la beauté, alors il s'échauffe et son plumage s'en trouve vivifié. Et cet échauffement fait fondre la matière dure qui depuis longtemps bouchait l'orifice d'où sortent les ailes, les empêchant de pousser. Par ailleurs, l'afflux d'aliments a fait, à partir de la racine, gonfler et jaillir la tige des plumes sous toute la surface de l'âme. En effet, l'âme était jadis tout emplumée. La voilà donc à présent qui tout entière bouillonne, qui se soulève et qui éprouve le genre de douleur que ressentent les enfants qui font leurs dents. Les dents qui percent provoquent une démangeaison, une irritation des gencives. Eh bien, c'est le genre de douleur que ressent l'âme, de celui dont les ailes commencent à pousser. Elle est en ébullition, elle est irritée, chatouillée, pendant qu'elle fait ses ailes. C'est Platon. Chaque fois donc que posant ses regards sur la beauté du jeune garçon et recevant de cet objet des particules qui s'en détachent pour venir vers elle, d'où l'expression vague du désir, l'âme est vivifiée et réchauffée, elle se repose de sa souffrance et elle est toute joyeuse. Mais quand elle se trouve seule et qu'elle se flétrit, les orifices des conduits par où jaillissent les plumes se dessèchent tous en même temps et parce qu'ils sont fermés, bloquent la première pousse de la plume. Or cette pousse emprisonnée avec le désir palpite comme un pouls qui bat fort. Elle vient frapper contre ce qui obstrue les orifices et cela orifice par orifice si bien que l'âme est guillonnée de toutes parts, est transportée de douleur. Mais parce que le souvenir de la beauté lui revient, elle est toute joyeuse. Le mélange des deux sentiments la tourmente. Elle enrage de se trouver démunie devant cet état qui la déroute. Et prise de folie, elle ne peut ni dormir la nuit, ni rester en place le jour. Mais sous l'impulsion du désir, elle court là où, se figure-t-elle, elle pourra voir celui qui possède la beauté. Quand elle l'a aperçu, quand elle a laissé pénétrer en elle la vague du désir, elle dégage les issues naguère obstruées. Cet état-là, les hommes l'appellent Eros. On peut bien croire cela, mais on peut aussi ne pas le croire. En tout cas, pour ce qui est de la cause et de l'effet, c'est bien ce dont font l'expérience ceux qui aiment. De ce passage, je vais retenir deux choses. Ce que je reconnais à sa lecture, c'est les faits, mot pour mot, trait pour trait, qu'ont provoqué en moi la vue, l'écoute, la présence de mon propre enfant depuis le moment de sa naissance jusqu'à un temps que j'ai du mal à situer, mais qui aujourd'hui me paraît correspondre au temps où il a eu acquis une certaine maîtrise de la langue, donc entre 5 et 6 ans. Même état. Pour détourner d'un si petit enfant la violence de cette adoration qui pousse parfois l'excès jusqu'à des élans de dévoration cannibale, comme il n'y avait pas, là où j'étais, de gâtillé ou puisé de l'ombre, je faisais comme ma propre mère, qui m'avait initié sans que je le sache au mystère d'Aphrodite et de Sappho. Je dirigeais l'attention de mon enfant vers la beauté du monde, des étoiles, de la neige, des musiques, des oranges, des images, des histoires dans les livres, et aussi vers la bonté des goûts et des caresses toutes imbibées d'ocytocine et de phéromones, ces hormones qui ont giclé dans le sang au moment de l'accouchement et qui ont déclenché la poussée des plumes et des âmes amoureuses. Une femme met au monde, et ensuite elle devient mère. En donnant le monde, la langue du monde qui lui paraît le mieux coïncider avec cette beauté du monde entièrement érotisée. Donne-moi ta langue, se souffle à l'oreille les amants, les amantes, encore une affaire de registre, où une des deux langues est nettement plus sexuée que l'autre, pour ce qui est du français en tout cas. En même temps que la mère donne le monde lié à la langue, elle dénoue le lien d'indistinction entre elle et l'enfant, ce qui ne se fait pas sans mal. Si j'ajoute qu'elle lui donne alors le père pour qu'il en fasse un père, je connais quelqu'un ici qui va s'exclamer qu'on est passé de Socrate à la psychanalyse, qu'il fallait s'y attendre, mais non, je parle des mystères transmis par Diotime alias Sappho à Socrate. Il se trouve dans la littérature québécoise une mère qui a donné la vie mais qui refuse de donner le monde et le nom du père, n'en parlons pas. C'est la terrifiante Claudine Perrault, du Torrent d'Anne Hébert, parue en 1950, qui s'ouvre sur ces paroles de son fils François « J'étais un enfant dépossédé du monde ». Claudine Perrault s'est retirée du monde après la faute avec le fruit de la faute. Elle coupe son enfant du monde en ne lui adressant la parole que pour le réprimander avant de le punir. Cette parole tient en peu de mots, châtiment, justice de Dieu, damnation, enfer, discipline, péché originel, il faut se dompter jusqu'aux os. Claudine Perrault ne montre jamais entièrement son visage à l'enfant. J'allais avoir 12 ans et n'avais pas encore contemplé un visage humain, dit François. J'avais 18 ans quand j'ai lu le Torrent pour la première fois et je suis devenue sourde avec l'enfant et peut-être avec nombre de lecteurs et lectrices. Je ne voulais pas savoir ni entendre d'où était partie cette femme pour s'enfoncer seule au cœur de la forêt et pour y frapper son enfant avec un trousseau de clés jusqu'à la surdité. Tu es mon fils, tu me continues, tu seras prêtre. Le prêtre, l'homme sans descendance, l'homme à robe, l'homme sans corps. Soit dit en passant, c'est assez curieux que ce soit avec son trousseau de clés que Claudine agresse son fils. Les clés de Saint-Pierre peut-être, ou alors les clés qui l'ont troussé. Ma concierge, Madame Thériault, une Montréalaise de souche de 82 ans à qui je demandais que la lumière du vestibule de l'immeuble soit remplacée parce que je ne trouvais pas le trou de la serrure lorsque je rentrais tard, s'est écriée « Ah bon ?» Mais c'est le trou qui n'a pas de poils, Madame Jacob. À votre âge, vous ne savez pas ça? Érotisme et classe sociale. Ce serait aussi un bon sujet pour faire la preuve qu'il y a... Ce serait quand même un bon sujet pour faire la preuve qu'il y a parfois quand même de la classe sociale là où on est persuadé qu'il n'y en a pas. Plus tard, j'ai écrit l'obéissance, l'histoire d'un infanticide. Florence Chaillet donne la vie à sa fille Alice, mais veut la soustraire au monde. C'est un roman facile si je le compare au Torrent, car il donne à entendre que c'est l'inceste père-fille, puis patron-femme, puis mari-femme qui sont à l'origine de la violence de Florence. C'est beaucoup plus compliqué à mes yeux de découvrir qui est Claudine Perrault. Aujourd'hui, je crois que Claudine Perrault fait partie de l'histoire des captives. Une captive, c'est une femme vierge qui a été raptée. On le sait par cœur, mais lisons tout de même un passage du livre des Nombres. Tuez aussi toutes les femmes qui ont partagé la couche d'un homme. Ne laissez la vie qu'aux petites filles qui n'ont pas partagé la couche d'un homme, et qu'elles soient à vous. Je parle de ces petites filles pour parler de Claudine Perrault du torrent d'Annébert. Car son fils, est-ce soit le fruit de l'inceste avec le père ou le grand-père Perrault, en tout cas c'est le père O, qui est dans le texte, ou encore le fruit d'un accouplement torride avec un gars du village, ça n'est pas dit. Ce qui est dit, c'est que la mère n'a pas d'autre langue que la langue de ceux qui ont rapté les enfants amérindiens et qui leur ont arraché leur langue natale de la bouche, qui leur ont cloué des mots sur la langue pour en faire des François et des fils prêtres. Médée n'est pas captive lorsqu'elle aime Jason. Elle le devient et on rit de son accent. On rit de sa langue qui se débrouille dans le nouveau pays où Jason la trahit. Ça lui coupe le débit de l'hormone de l'amour, elle tue les enfants. Elle les soustrait au monde. J'ignore aujourd'hui ce qu'Annébert répondrait à l'origine de captive de sa Claudine Perrault. Lorsqu'elle fait amener à la ferme de la forêt le cheval sauvage, elle le nomme Percival, avec un deuxième radical sonore, père. C'est le père sauvage qu'elle a ramené chez elle et qui la tuera. Mais Percival était lui aussi un enfant retiré du monde par sa mère, une veuve cette fois, qui refusait qu'il aille rejoindre les chevaliers chrétiens. L'histoire de Percival est aussi une légende qui tire son origine du passage des tribus gauloises païennes à la religion monothéiste catholique romaine. On va arriver à Eros. On est dedans, mais on ne s'en aperçoit pas. Dans les mythologies amérindiennes, Eros n'est pas distinct de Manitou. Manitou est toute la pulsion de vie. Il est l'esprit qui branle et se branle à travers toute la création. C'est cet esprit-là qui reprend possession de François lorsqu'il dit « J'étais devenu sourd. À partir de ce jour, une fissure se fit dans ma vie opprimée. Je ne possédais pas le monde, mais ceci se trouvait changé. Une partie du monde me possédait. Le domaine d'eau, de montagne et d'entrebas venait de poser sur moi sa touche souveraine. » Avant le monothéisme, les divinités s'étaient métissées à tire-larigot. Pour mettre en place le monothéisme, il a bien fallu faire cesser ces coucheries et éradiquer toutes ces divinités qui se partageaient le monde et ses mystères, c'est-à-dire les savoirs dont elles étaient dépositaires, et qu'elles transmettaient à l'occasion de nombreux colloques, journées d'études et festivals qu'on appelait les mystères, entre autres, où on discutait de semences, de récoltes, de tissage, d'herbes médicinales, d'astrologie, d'écriture, de bricolage, de philosophie, d'architecture, d'amour et de voyage. Or, la naissance d'un enfant menace toujours la place du Dieu unique, du fait que cet enfant, fille ou garçon, devient dès sa naissance l'idolâtrie de la mère. Les pères de l'Église ont multiplié conciliabules et conciles pour mettre au point la stratégie qui allait écarter la menace. De 428 à 1854, 141 générations d'hommes de robe ont débattu des parties intimes d'une femme nommée Marie pour en arriver à la version finale du mythe devenu dogme de l'Immaculée Conception. Cette femme, contrairement à Cérès qui connaît les céréales, à Héra qui en savait un bout sur le mariage, à Aphrodite sur la différence entre le désir et le besoin, à Athéna qui savait tendre son arc et sa tapisserie, Marie, la femme d'un seul mot, Fiat fait main basse sur toutes les traditions et les savoirs des déesses qui servaient à donner la vie et le monde aux humains, ne sachant plus du tout changer l'eau en vin, n'ayant aucune herbe à mettre dans sa soupe. Marie éclipse pourtant toutes ses rivales par le resplendissement de sa non-tâche. Une non-tâche, c'est à nouveau un trou dans la langue. Un trou par où évacuer la tâche initiale, où désir et besoin, plaisir et souffrance fusionnent dans la mise au monde. Marie est désormais la seule mère, son enfant est le seul Dieu, c'est l'enfant Dieu, les autres femmes n'accouchent que d'imitation. On sait désormais que l'original, le seul présentable, est entre les bras d'une seule. Les hommes, de leur côté, ne savent plus où donner de la conscience entre salir et saillir, c'est bataille. Ils finissent par assaillir, c'est sade. Il n'y a de bénéfice que pour la curie romaine. On a dit et on dira que la Santhache n'a pas empêché des femmes de continuer à s'initier les unes des autres au mystère, à l'amour de la transmission et à Eros. On ne dira jamais assez à quel point les inquisitions successives, leurs bûchers et leurs tortures ont coupé les femmes d'une socialité et d'une solidarité que la transmission des traditions du savoir tissait entre elles, même s'il ne faut pas oublier que ce mythe de l'Immaculée Conception a pris forme entre deux terrifiantes pandémies, la peste de Justinien, faisant 100 millions de victimes entre 541 et 767, 100 millions de victimes, la peste noire de 1348 à 1352, 25 millions. Autrement dit, il n'y avait plus grand monde. On continuait à discuter du sexe de la dame. Pourquoi s'en souvenir? Parce que la vue et les cris des pestiférés inspireront l'imagerie de la torture et de l'enfer jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'être immaculé n'avait pas la même résonance qu'aujourd'hui, la torture non plus, ni le bûcher. Dans l'horizon du fragment, Nicole Brossard écrit « Depuis la Nef des sorcières, les fées en soif et la saga des poules mouillées, je n'ai cessé de m'interroger sur la difficile socialisation des mots entre les femmes. Il m'a toujours semblé que les dramaturges québécoises ne sont pas arrivées à socialiser les échanges entre femmes, c'est-à-dire à produire des dialogues élaborés et conflictuels, permettant l'expression d'une gamme nuancée de sentiments issus et adressés à d'autres femmes. Je crois pour ma part que l'histoire des divinités écrasées sous le pied d'une seule peut éclairer en partie cette question qui rejoint celle de la rivalité et de la solidarité, toujours en manque d'élaboration. Claudine Perrault, sans rivale, sans amitié réciproque d'égal à égal, serait la manifestation extrême de cette coupure initiée par Marie. Elle la rejoue en une castration carnavalesque, monstrueuse, qui tue à jamais tout Eros en son François. La mère larve de Putain, de Nelly Arcan, l'exemple du trou mortifère creusé par la Santhache entre la mère et la fille, ni ne donne la vie, ni ne donne le monde à sa fille. La fille reste pendue au lien létal. Dans le discours jubilatoire de Socrate, une deuxième chose, c'est un fragment qui paraît réticent à en dire plus long comme s'il pouvait nous assombrir. L'initié commence par frissonner, a-t-on lu, car quelque chose lui est revenu de ses angoisses de jadis. Le traducteur nous laisse une note. On ne voit pas très bien à quoi dans ce qui précède pourrait faire référence ses angoisses. Ce pourrait être une notation appelée par le contexte où les mystères jouent un rôle important. Ne pouvant pas cerner ce quelque chose d'angoissant évoqué par Socrate, déclenché par l'émoi, par le trouble, par l'accélération du pouls, par l'érection, par l'ouverture de la vulve, on s'en fera l'image qu'on pourra à partir des pratiques qu'on connaît, par oui-dire. Circoncision. Infibulation, clitoridectomie, scarification, viol, meurtre rituel d'enfant. Bon, bien sûr, tout cela ne fait pas partie de notre actualité de la rue Laval, à Montréal. Nous parlons plutôt de délicieuses angoisses ici. Nous savons bien que le frisson est le signal reçu des hormones de défense et de consentement qui giclent dans le sang à la moindre alerte de la présence d'Eros. Nous nous réjouissons que ce savoir n'ait aucun effet sur la vie privée des glandes endocrines. Heureusement. Nous savons aussi par Freud que l'inconscient a horreur de l'inconnu, ce qui nous donne à penser que l'inconscient, en tant qu'inconnu lui-même de lui-même, doit se tenir en horreur. D'ailleurs, de plus en plus de gens sont persuadés qu'ils n'ont tout simplement pas d'inconscient, ou alors s'il y en a un, ils le font obéir au droit et à l'œil par la méditation positive. C'est notre actualité, rue Laval. Pour Georges Bataille, l'être que l'érotisme fascine est tout à fait dans la situation de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Est érotique l'être qui se laisse fasciner par un jeu défendu. En italique, c'est dans son texte. Défendu. Il va toujours assez loin pour avoir peur. Il lui faut avoir peur. Il me semble, dit Georges Bataille, qu'il est très important d'apercevoir le caractère enfantin de l'érotisme dans son ensemble. Ce seraient ainsi les sévères punitions que lui ont mérité les transgressions antérieures des plus véniels ou plus mortelles qui seraient à l'origine de la délicieuse angoisse et de la recherche de sa plus intense amplitude, comme celle que procure, par exemple, Editon, l'asphyxie érotique. Ben, je suis encore là. Mais pourquoi alors ces générations qui n'ont connu ni faute ni punition, qui n'ont connu que la ouate et l'explication psychologique, continuent-elles d'éprouver de l'angoisse à l'approche du désir? La ouate et l'explication seraient, elles aussi, porteuses à leur insu des angoisses d'un jadis irrepérable? Nous ne savons pas comment la plupart d'entre nous n'a presque aucune mémoire de sa petite enfance, peu de sa préadolescence, et ce n'est qu'avec le grand âge qu'à nouveau nous y aurons accès. Nous avons trois mémoires. La très âgée, qui à l'âge de l'humanité, semble se contenter de faire circuler en nous ces débris au rythme des liquides corporels. Qu'on ait ressuscité en laboratoire en 2006 en recollant ces bribes et ces filaments, un rétrovirus qui s'était fossilisé dans la page d'ADN de nos ancêtres pour son odyssée à travers les générations, ne nous rend pas la conscience de notre histoire phylogénétique, ni ne nous explique en quoi elle nous est utile. Je ne peux que délirer en soutenant que cette mémoire peut être violemment reconstituée en moi par la poussée libidinale, de manière illisible, donc de manière angoissante. C'est cette mémoire que Rilke entrevoit dans la troisième élégie de Duino. Ainsi l'enfant aimait en abandonnant son cœur pour descendre le long de ses propres racines jusqu'à l'origine puissante où sa petite naissance était déjà dépassée. C'est en aimant qu'il descendait dans ce sang plus ancien, dans les gouffres où gisait l'effroi, nourri encore par les aïeux. La deuxième mémoire, celle qui répète 100 fois « Souviens-toi », nous permet de vivre en communauté, de remplir nos obligations, de tenir nos promesses, de tenir des conversations ordinaires dans le cadre de la normalité. Elle installe son règne sur le trou par où elle évacue dans l'oubli ce qu'elle juge inutile pour la vie en commun rue Laval. Elle garde les yeux fixés sur l'horloge de son temps, elle est de l'ici et du maintenant, de ceux et celles avec qui elle partage les frontières, les routes, les monnaies, les vivres. L'oubli est la troisième mémoire, qui veut la nuit, qui veut le noir de la caverne et le blanc du trou de mémoire. L'oubli est la mémoire qui doit rester dans son trou à la manière d'un compost, où s'en mêle ce que nous avons fait et ce que nous n'avons pas fait. Ce que nous avons appris et ce que nous n'avons pas appris. Ce qui a eu lieu avec ce qui n'a pas eu lieu. Ce que nous avons imaginé avec ce que nous n'avons pas imaginé, ce que nous avons écrit avec ce que nous n'avons pas écrit, ce que nous savons avec ce que nous ne voulons pas savoir, c'est l'oubli. Quand le vent passe au-dessus de son trou, de son puits, de sa caverne, de sa cheminée, ça chante, ça vibre, ça siffle, ça hurle. Quand nous nous y penchons, ça résonne et ça angoisse. Cette vibration se laisse confondre et nous confond entre l'appel du passé et l'appel de demain. Ce qu'elle met en jeu, c'est l'identité, chèrement et durement acquise, de la deuxième mémoire. Elle amalgame le désir d'un univers fusionné et parfaitement accordé à l'accord fondamental du nôtre et celui d'une nouvelle fusion où on pourrait tout perdre de son identité ou gagner davantage d'identité. Comment tout perdre, se perdre et gagner, tout gagner. Le problème, c'est que protéger ses biens, c'est souvent s'interdire d'en jouir. Quelle lente jouissance que cette question. C'est pourquoi alors que nous courons, libres enfin et comblés de consentement, vers l'amante, le chant qui monte de l'oubli nous fiche sur place et nous désoriente. Les souvenirs empilés et tapis dans la réclusion où ils s'amalgament entre eux et aux débris de la mémoire archaïque remuent. Jadis, c'est un mot bien doux pour nommer ces angoisses, c'est un mot qui voudrait dénouer l'étreinte de l'effroi lorsqu'un son inconnu persiste au cœur de la nuit, sans qu'il nous soit possible de nous former une image de sa source. On prononce le mot jadis et les grandes baleines replongent loin dans les gouffres océaniques. Mais l'appel ressurgit et la main tâtonne dans la nuit à la recherche de la provision d'anxiolytiques. C'est que l'identité est si difficile à construire quand le désir de la perdre, de l'égarer à jamais dans la fusion amoureuse est constant. Pascal Quignard a consacré plusieurs livres à méditer sur l'image manquante de la scène primitive, sur les caractères sonores de la vie utérine et sur leurs répercussions sur l'érotisme. Il parle des sons non visuels qui ignorent la vue, qui errent en nous. Il parle aussi de la perte de sa voix d'enfant qui sépare l'homme du monde, de sa mère et de ses sœurs. L'embryologie nous dit aujourd'hui que le fœtus n'entend pas directement la voix de sa mère à travers la paroi de la peau. La voix passe par la colonne vertébrale de la mère pour rejoindre l'organe de Corti qui est le socle de la cochlée. Mais alors me fait remarquer mon frère, on peut penser que le fœtus entend la voix de la mère en écho, comme dans une chambre d'écho. Je n'ai rien trouvé de tel dans mes recherches, mais il se peut bien que le saisissement qu'on ressent lorsqu'on entre dans un lieu réverbérant la voix fasse partie d'un perdu sonore que l'oubli a rejoint à sa source. Luce Baudet, professeure d'analyse musicale à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Depuis plus de 40 ans, elle développe un modèle d'analyse de la musique tonale à travers le répertoire de Bach à Wagner. L'étude patiente et passionnée des œuvres l'a conduite à mettre à jour trois mécanismes d'intervention qui peuvent rendre compte, à eux seuls, de toutes les transformations de la structure de base. Cette dernière étant définie comme les rapports entre les accords de discours harmonique tonal. En 1992, paraît dans Le Devoir un article de Yvonne Ribérold du journal Le Monde sur le génome humain et les mécanismes de reproduction sexuée. Luce est fascinée de découvrir ce que les généticiens savent désormais, que les mutations dans l'ADN nucléique sont produites principalement par trois phénomènes qui correspondent, trait pour trait, quasiment pour mot, aux trois mécanismes de son modèle, substitution, interpolation et déviation. Je suis fascinée, comme elle, et cette coïncidence me fait forcément délirer. Je ne peux pas m'en empêcher. Elle me donne à comprendre ce que Nietzsche entend lorsqu'il dit « Tout d'abord, le poète lyrique s'est entièrement identifié à l'un originaire, à sa douleur, à sa contradiction » et que c'est comme musique qu'il produit la copie de cet originaire. Et Rilke, dans la première élégie, serait-ce une vraie légende qu'autrefois, dans la complainte pour Linos, la première vague de musique transperça la rigidité stérile et que dans l'espace épouvanté qu'un adolescent presque divin venait de quitter à jamais, le vide se mit à vibrer de ce mouvement qui aujourd'hui nous saisit, nous console et nous maintient. Pour tout dire, je cherche à accumuler les illustrations, et il y en a mille autres, qui pourraient servir à convaincre que c'est un son unique, résonance ou harmonique, d'un accord fondateur, qui est plus que toute image, plus que tout fantasme, ce qui alerte l'écoute de l'être, ce qui le dresse dans la verticalité, ce qui le pousse et le tire, ce qui le déchire et le meut vers la jouissance, d'être celui qu'il est, cherchant l'étreinte avec l'autre qu'il n'est pas. C'est cet accord premier qui tient en échec le sinistre appel du lieu sans feu ni lieu où il serait dans la jouissance de n'être rien, d'être aucun être et de devoir être ce rien sans jamais chercher l'étreinte avec l'autre. Ce son, je l'appelle Eros et je l'appelle. Je lui téléphone même. Je me pends au fil téléphonique, je me pends au fil de son téléphone pour mieux l'appeler ou pour mieux entendre. Mais je n'obtiens pas sa ligne. Sa ligne n'est pas ailleurs que là où je continue de respirer, quand je ne me pends pas. Je cherche à dire que l'image est une traduction du sonore sans vue. Toute image me semble la traduction visuelle d'un son dont la source reste cachée. L'image veut montrer que quelqu'un entend, que quelqu'un a entendu quelque chose qui s'entend. Non pas que quelqu'un a vu, mais que quelqu'un continue d'entendre. Quand l'image est impuissante à faire entendre sa source sonore, elle l'abasourdit, elle en devient l'étouffoir. Quand l'image a la puissance de faire entendre les harmoniques de son origine, elle traverse les siècles. À la fin de ce mois d'avril 2011, les Italiens vont exhumer les ossements de Lisa Gherardini. Ils vont procéder à la reconstitution de son visage de manière à décider une bonne fois pour toutes si oui ou non Lisa a servi de modèle à la Joconde. Peut-être seront-ils un jour en mesure de reconstituer sa voix, mais ils ne reconstitueront jamais ce qu'elle entendait, ce qu'elle entend toujours. Cette écoute unique que Léonard de Vinci a traduite par la peinture échappera toujours aux reconstitutions. Les plus grands comédiens, comédiennes, danseurs, danseuses sont ceux qui suivent le fil inaudible pour nous du son, qui les tient en équilibre, qui ne se casse à aucun moment, qui envoûte et nous érotise à eux. Ça ne se dit pas. Qui nous érotise à eux. Disons-le ce soir. Ce que l'autre entend, vers quoi nous tendons, nous érotise, nous fait flamber. Ce que l'autre en dit, ce que j'en dis, ce que nous en disons dans la voûte où nous nous réfugions pour nous le dire, n'est toujours qu'une traduction. Mais cette traduction nous est vitale. Aujourd'hui, une quatrième mémoire vient s'ajouter aux trois premières. Elle n'enjoint pas de nous souvenir pour arriver à vivre ensemble. Elle se souvient. Ni d'oublier, elle n'oublie rien. Elle ne se déforme pas. Elle ne composte rien. Elle ne fait que se mettre à jour, jour après jour. Elle ne connaît pas la nuit. C'est une gigantesque accumulation qui n'a besoin de personne pour s'emparer d'un pouvoir et d'en jouir. L'humanité entière y est inscrite et personne n'a le choix d'y être et d'en être. On ne vous téléphone pas. On n'a pas vu venir le coup. Chacun devient subitement son propre spectre. Quand on comprend qu'on est cuit, ça fait longtemps qu'on l'est. On est membre du stock. On n'est plus jamais en train d'hésiter sur la rive d'un fleuve, car notre spectre est déjà cuit. On est inatteignable pour soi-même. Et l'idée de s'immoler par le feu pour mettre fin à cette obscénité d'être compressé au sein d'un stock global est dérisoire. Il nous faudrait plus que le temps qui nous reste à vivre pour se sortir du stock, pour échapper au procès farfelu du « j'aime, j'aime pas ». On découvre ensuite que quelque chose a changé depuis longtemps dans sa présence au monde. Si elle est requise, c'est en vue de l'archivage de l'immédiat. Le direct n'existe plus. Il n'y a plus de direct, c'est sous l'angle du différé qu'on se met à respirer, comme si le tragique destin de Marilyn était désormais le mauvais sort de tous. On ne dit plus qu'on irait bien en Espagne, on dit qu'on se verrait bien aller en Espagne. Elle nous sera bientôt greffée directement dans le cerveau, condamna peut-être les premières mémoires à la désuétude, donc au tourisme, comme les igloos, les dents de sagesse, les crucifix. Et le jadis, la pensée que l'oubli, dans lequel pourrissent mais copulent aussi les restes, duquel se lève cet appel vers un nouveau texte traduisant le désir d'Eros, la pensée que ce trou immonde d'où monte le chant sera obturé par une mémoire sans faille, nous procure un frisson peut-être bien plus profond et fondé que les premiers frissons de l'amour incertain où nous ne savons pas si ce qui va se jouer là va être du jeu ou un enchaînement au travail d'une prostitution de nos corps amoureux. L'angoisse du futur ressemble alors à un ciel noir, lourd d'ouragan, enténébrant la terre comme au premier temps de toutes les genèses. Pour l'instant, ce qui me constitue se maintient dans la jouissance d'être au monde par une angoisse érotique sans fin. Que ni la mémoire du quotidien ni la mémoire géante de Wikipédia ne sont parvenus à mettre au trou. L'angoisse érotique sans fin, c'est l'angoisse insoluble de l'apprentissage du jeu sans écho, sans ombre, planté, brûlé en plein midi, sommé. lorsque nous accordions nos violons avant le concert et que nous atteignions ce moment où l'ondulation sonore s'éloigne et s'unit vers une seule même harmonique, je m'en émouvais horriblement parce que j'éprouvais l'écart qui dissonnait et faussait, qui détonnait entre le jeu sommé et le monde. Aujourd'hui, je ne suis pas à Fukushima, et pourtant je suis à Fukushima. Je voudrais jeter mon corps entre moi et le cœur d'un réacteur et que ça soit suffisant pour épargner une truite et une laitue. Eros, c'est la force qui me permet de survivre à ce qui écartèle et qui divise, qui fait quaquer l'ondulation sonore. C'est cet écartèlement, cette division quaquante qui m'a fait écrire et signer quelques livres. Ils sont des traductions d'un son arrachant qui voudrait la toute-puissance du désir pour capturer le cœur d'un réacteur nucléaire et le soumettre. On ne crée rien sans le tirer d'un avenir, écrit Pierre Ouellet dans la présentation pour la revue Les Écrits des textes de la rencontre de l'année dernière sur le thème du futur. Faisant par cette phrase fusionner dans le présent nos quatre mémoires. Pendant qu'une musique encore inaudible, embusquée dans les strates de nos multiples chaos, naît cet Eros qui se branle. C'est le branle qui engendre Eros. C'est ce battement qui répète et répète encore. Entends ce que tu écoutes. Écoute ce que tu entends.
Merci Suzanne pour ce voyage assez époustouflant et ce beau dénouement sur l'écoute, sur le son originel. Enfin, je pense que c'est magnifique. On a quelques minutes, je ne sais pas combien on a de temps, pour échanger un peu. Alors vous êtes invité à intervenir. Suzanne nous a lancé dans une telle force que c'est peut-être pas évident de... Je ne vois pas très bien le public, alors. Est-ce que quelqu'un... Si quelqu'un lève la main, là. Tu as lu longuement le passage, assez d'ailleurs presque délirant, où Socrate parle de la beauté et de ce qui se passe à la vue de la beauté. T'as enchaîné ensuite avec... le lien à ton enfant. Et il me semble que toute la suite, finalement, disqualifie ou en tout cas marginalise la beauté dans l'Eros. Est-ce que je te comprends bien? Finalement, ce lien-là serait relativement secondaire par rapport à quelque chose qui paraît beaucoup plus fondamental. Bon, tu as parlé d'une sorte d'un oubli qui est un trou, qui est un...
C'est parce que finalement, pour moi, ça règle un peu toute l'affaire Ça règle pas du tout le fait qu'on peut continuer à lire des poèmes avec nos affaires, mais quand on sait à quel point ce sentiment de beauté, bon, évidemment, c'est un sentiment très très fort, mais qu'il soit ce sentiment de beauté, qu'il soit propre, qu'il soit comme ça, presque furieux au moment de la naissance de l'enfant, à cause de ce qui se passe donc, entre la mère et l'enfant. C'est pas... Quand on pense, soudain, quand on va dans le... Ben, oui, c'est vrai, en biologie, quoi. Quand on voit l'incroyable afflux comme ça, puis on se dit, ça, c'est très bizarre que ce soit relié à une hormone, que ce sentiment de beauté dont on a fait tant de cas, il est toujours là, on l'a toujours, justement, de savoir que c'est vraiment un truc assez puissant qui arrive dans les deux corps, en fait, qui est changé, hein, entre la mère et l'enfant. Ça change rien à nos textes, mais ça change, pour moi, quelque chose, en ce sens que c'est comme un petit peu... Ça, Je dirais que ça rend un peu désuète de pourquoi lui trouve ça beau, pas ça beau, mais en fait, c'est par rapport à la beauté, il y a d'un seul coup quelque chose qui se calme pour moi, qui se calme, qui me dit, bon ben oui, c'est mon amant ou mon amante, ben c'est toujours le comble de la beauté, point final, quoi. C'est-à-dire que tout dans le corps dit c'est ça la beauté, au moment où, donc c'est là que je m'en vais vers le son, ça veut dire au moment où il y a cette espèce de coïncidence ou ce creux d'écoute entre les deux vibrations, et c'est la vibration qui est belle et on traduit par... Ouais, mais donc... bon, enfin... C'est parce qu'aussi, on ne peut pas tout dire en une heure.
Non, c'est vrai.
Il a fallu faire quelques choix quand même. Bon, je vous donne un exemple de choix, par exemple. Ça, c'était un article tout à fait intéressant sur les femmes surréalistes et Ross, parce que, évidemment, là, il y avait toute la question de justement comment elles se. À quoi elles consentaient dans l'image, à quoi elles consentaient dans leur œuvre à elles, et à quoi elles consentaient comme compagne, ou enfin, comme compagne, et qu'est-ce qu'elles cherchaient comme artiste. Bon, ça pourrait faire un sujet complet, quoi. J'aurais pu faire toute la conférence là-dessus, parce que, faire toute la recherche là-dessus, parce que c'est assez passionnant de voir, bon, donc que ça ne se rencontre pas. C'est pour ça que l'auteur dit qu'elles avaient le cœur de chaise, donc, mais en fait, il y a toute une recherche vers une œuvre, mais à côté de ça, il y a une telle soumission à l'érotisme masculin que ça en est incroyable, quoi. Bon, voilà, c'est ça qui est... Et c'est intéressant, quoi, d'aller voir là où c'était comme ça en train, justement. C'était dans un passage où on allait bientôt, ce dont j'ai pas parlé, évidemment, qui change toute la donne de l'érotisme, on allait bientôt connaître les anneaux vulants. C'est absolument majeur dans tout ce qui se passe pour tout le monde, quoi. C'est par rapport à l'angoisse. Je veux dire, parce que si on pense à angoisse par rapport à procréation, elle a complètement changé de place, évidemment, entre autres. Hein. C'est juste une chose comme ça. Mais on aurait pu parler de ça aussi. Oui, et ben oui, il y en avait beaucoup de choses à dire si on s'y mettait, là, mais...
Oui, comme vous semblez dire au départ que le sujet vous angoissait, ou à quelque part vous tombez un peu des mains, le voyage que vous avez fait, vous le qualifiez comment maintenant? Est-ce qu'il oriente une façon de voir différente l'écriture?
Bah, disons que, en tout cas, je me sens... oui, c'est vrai, non, c'était pas une angoisse, c'est vraiment un manque d'intérêt pour, enfin, cette chose... la crinoline, là, et le porte-jartel, j'en ai pas mis non plus, hein, dans mon truc. Il y a des choses comme ça qui se renouvellent pas, quoi, qui sont tellement... qui sont d'une sorte d'artisanat, quoi, d'érotisme. Je parlerais même pas d'un art, mais ici... Et en plus, quand on essaie de trouver quelque chose comme ça qui est autrement, très vite, on comprend que les grandes flambées d'érotisme et tout ça, c'est pas là que ça se joue, quoi. Hein, c'est vrai que c'est ennuyeux ça a été ennuyeux un petit peu quand même, de passer par, ben voilà, ils répètent tous la même chose, quoi. Je veux dire, cette espèce, et ça fait partie, donc, mais ça fait, on s'en va toujours vite vers la pornographie quand on va dans la répétition du porn-jartel, enfin, pour résumer les choses, là. Donc, on est toujours au plus près, ça frôle comme ça, on est toujours dans une chose comme ça, et il y en a évidemment, bon, tellement il y avait un article là qui dit combien je peux pas retenir ça, moi, les milliards de clics à la minute de gens qui vont sur les sites qui cherchent ce que je cherchais pas, mais sur lesquels je tombais forcément, là, puisqu'il fallait quand même que je apprenne à me diriger. Mais il y a une sorte de chose qui est la répétition, on sait, bon, de toute façon, les gens se font traiter pour ça, pour arrêter de arrêter de la répéter, celle-là. Mais donc, c'est vrai que ça me... J'ai essayé quand même, pour moi-même, d'aller plutôt du côté de Pascal Quignard, par exemple, que du côté du porn-jartel, de son âme.
C'est un bon choix.
Ah, on est un peu fatigué.
Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, moi je suggère qu'on passe au petit cocktail et que poursuive la conversation plus librement. Alors voilà, ben, merci encore Suzanne Jacob.
Merci beaucoup. Merci. Merci.